France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 28 décembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Pablo Valero à la réalisation, Julien Duminc à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Le menu du jour, le voici. Nous entendrons Mozart, Beethoven et Offenbach notamment. Je vous ferai gagner le livre « Opéra de Paris, toute une histoire » de Jérémy Rousseau et Gérard Denisot un peu avant 8h. À 8h20, notre reportage direction Marseille à la rencontre des voix de la Canebière, des ateliers de chant choral. À 8h30, dans sa chronique « Battement de cœur », Marc-Olivier Dupin nous donnera la recette de la fugue. Notre invitée du jour sera Pascale Gaillard, directrice du musée de Grenoble, qui propose une riche saison de concerts. Enfin, Roselyne Bachelot nous parlera de cinéma. Ce sera en toute fin d'émission.
Thank you.
L'Allegro, premier mouvement du concerto pour clarinette en la majeure de Mozart. Ce concerto qui a donné l'envie à Julien Hervé, le soliste ici, d'apprendre la clarinette. Un très très beau nouveau disque qui vient de paraître sous le label Nomad Music en partenariat avec France Musique. Avec aux côtés de Julien Hervé, l'orchestre philharmonique de Rotterdam et Gustavo Rimeno. Nous sommes le 28 décembre, c'est bientôt la nouvelle année. Il est un compositeur dont nous allons grandement entendre parler en 2020. Ça a déjà commencé un petit peu avant d'ailleurs. L'un des plus grands créateurs de notre histoire, un musicien visionnaire, j'ai nommé Beethoven, 250e anniversaire de sa naissance. Et dès le mois de janvier, la Philharmonie de Paris, par exemple, proposera un week-end Beethoven en famille. Ce sera les 25 et 26 janvier, avec des ateliers pour lesquels il reste des places. Je pense notamment à ce concert participatif à faire en famille qui vous permettra à vous et à vos enfants de revisiter l'œuvre de Beethoven en chantant et en jouant sur des instruments fabriqués en PVC. Plus d'informations sur le site de la Philharmonie, philharmoniedeparis.fr.
Thank you.
James Hance, Andrew Armstrong, ici en duo, nous écoutions le rondo, le troisième mouvement de la première sonate pour violon et piano en ré majeur de Beethoven.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai choisi ce qui est sans doute l'un des plus célèbres contes musicaux, Piccolo Saxo et compagnie, petite histoire d'un grand orchestre, conte musical et pédagogique composé par André Pop. Il est sorti en 1961, cela fait donc plus d'un demi-siècle que des générations d'enfants suivent l'histoire d'instruments devenus personnages. François Perrier en est le récitant, je suis certaine que ça vous rappelle pas mal de souvenirs, écoutez.
Fut un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux. Chaque famille d'instruments vivait séparée des autres, et c'était bien dommage. Ce furent les petits violons qui, par hasard, découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls instruments au royaume de la musique. Vous allez apprendre comment. Les petits violons étaient les derniers-nés d'une très ancienne famille qu'on appelait la famille des cordes. Leur bavardage était bien joli à entendre. Il y avait les petits violons qui pouvaient chanter très haut avec leurs chanterelles. Leurs grands frères, les violons alto, qui avaient déjà une voix plus grave. Leurs parents, les violoncelles, beaucoup plus gros, et dont la voix se rapprochait quelquefois de celle des hommes. Il y avait aussi l'énorme grand-mère contrebasse. Oh, j'allais oublier la vieille demoiselle harpe. Elle ressemblait à un grand lance-pierre entre les branches duquel étaient tendues de longues cordes parallèles. Elle savait mieux que personne imiter le vent qui gémit. L'orage qui gronde. Et le chant des sources. Un beau soir, les petits violons, très excités, allèrent trouver grand-mère contrebasse. Devinez, grand-mère contrebasse, dirent les violons, devinez ce qui se passe. Nous étions en train de nous promener et de l'autre côté de la rivière, nous avons aperçu des petits instruments qui ne nous ressemblent pas du tout, mais qui parlent une très jolie musique. Ils ne sont pas en bois verni comme nous et n'ont pas de cordes. Ils sont en cuivre et ressemblent à de grandes pipes. « Comment ?» demanda l'harpe qui avait tout entendu. « Est-il possible que vous disiez vrai et qu'il existe d'autres instruments que ceux de notre belle famille des cordes ? Je suis impatiente de les connaître. Dites-leur de venir bien vite !» Et les petits violons, fous de joie, s'en furent invités les inconnus qui arrivèrent en grande pompe un matin de jeudi. Thank you.
Piccolo Saxo et compagnie, qui vient d'être réédité en livre CD chez Gauthier Langros et avec des illustrations de Fred Bultier, conte intemporel qui s'adresse aux enfants dès 3 ans et qui sera d'ailleurs interprété sur scène très prochainement. Ce sera le 12 janvier prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris avec Juliette comme narratrice. C'est l'heure à présent de notre concours et ce matin je vous offre le livre « Opéra de Paris, toute une histoire » de Jérémy Rousseau et Gérard Denisot, paru aux éditions Larousse. L'Opéra de Paris qui fête ses 350 ans depuis la première salle du Jeu de Paume sous Louis XIV jusqu'à l'inauguration de l'Opéra Bastille en 1989. L'Opéra de Paris qui a connu un destin qui épouse les grandes heures de l'histoire de France tout en écrivant l'aventure des arts. Et c'est ce que les auteurs vous proposent donc de découvrir. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées, puis la bonne réponse à la question qui va suivre, et vous recevrez peut-être cet ouvrage dans votre boîte aux lettres dans quelques jours. Ce matin, je vous propose donc de deviner le nom du deuxième site où sont proposées les productions de l'Opéra de Paris. Alors, il y a bien évidemment l'Opéra Bastille, mais il y a aussi trois propositions, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées ou encore l'Opéra Garnier. Vous nous envoyez votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Yeah!
Les oiseaux dans la charmille, l'air d'Olympia, extrait des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, de l'opéra ici avec la grande Patricia Petitbon, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon et Yves Abel à la direction. Et si vous aimez Jacques Offenbach, sachez que demain, dimanche 29 décembre à 15h35, la chaîne Arte diffusera le documentaire L'Odyssée Offenbach à l'occasion du bicentenaire de la naissance que nous fêtions en 2019. Un portrait de ce génial inventeur de l'opérette, ainsi que deux de ses plus grands succès qui seront détaillés, La Belle Hélène et La Grande Duchesse de Gerolstein. Documentaire à voir donc demain à 15h35 sur Arte ou en replay sur arte.fr.
Carrefour de la création, le dimanche de 20h à 20h30, France Musique.
C'est une nouvelle équipe de passionnés dédiée à la création musicale. Ensemble, nous allons vous faire vivre les grands concerts de musique contemporaine de Radio France, l'actualité discographique, des cartes blanches, des portraits de compositeurs, des musiques improvisées ou électroniques. C'est la joie du temps présent.
Carrefour de la création, le dimanche de 20h à 20h30, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Thank you.
Que ce soit Pisendel, Locatelli, Leclerc ou Georg-Philippe Telemann, ou encore Giuseppe Tartini, comme ici, avec ce concerto en la mineur dont nous écoutions un extrait, les compositeurs ont donné au violon du XVIIe siècle naissant cette écriture luxuriante et puis ce rôle de premier plan pour le soliste. Ici, nous écoutions le violoniste russe Dmitri Sinkovski aux côtés de l'ensemble Il Pomodoro. Dmitri Sinkovski, un artiste assez incroyable, puisqu'il est aussi contre-ténor et chef d'orchestre. C'était un extrait de ce nouveau disque baptisé Virtuosissimo qui est paru chez Naïve fin octobre.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi t'en fais pas ?
Dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral, ça se sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Eh bien, sachez que l'ensemble des Traversées baroques, ensemble de musique baroque né en 2008 à Dijon, grâce à Judith Paquier et Étienne Meyer, fondateur et co-directeur artistique de cet ensemble, eh bien, les Traversées baroques proposent, au-delà du fait de redonner vie à des répertoires méconnus, ils proposent chaque saison des ateliers, ateliers qui ont pour mission la formation des musiciens sur le répertoire de la musique baroque. Ce stage est ouvert à tous, que vous soyez musicien amateur de bon niveau comme futur professionnel. Et durant ce stage, il vous sera proposé des cours de musique d'ensemble, d'improvisation, ainsi que des cours individuels adaptés à vos besoins. Il est ouvert aux violonistes, violistes, sacboutistes, cornettistes, flûtistes, violoncellistes, etc., etc. Sans oublier les chanteurs, évidemment. Le prochain atelier des Traversées baroques aura lieu sur les week-ends des 9 et 10 mai et puis du 21 au 24 mai 2020 dans les locaux de la maîtrise de Dijon. 12e édition de cet atelier qui sera donc consacré à Henri Schütz et à ses héritiers musicaux. Si vous souhaitez y participer, sachez que les inscriptions sont lancées. Rendez-vous sur le site des Traversées baroques, www.traversées-baroque.fr.
Thank you.
Confitebor tibi domine de Giovanni Gabrielli, nous écoutions les traversées baroques. On va poursuivre avec l'extraordinaire Quatuor Hagen qui existe depuis 1981. Aventure familiale puisque composée de des frères et sœurs Hagen jusqu'à l'arrivée de Rainer Schmidt en 1987. Eh bien, le Quatuor Hagen a enregistré le Quatuor opus 67 de Brahms chez Mirios Classics. Quatuor jumelé au quintet opus 34, toujours de Brahms. Ils sont rejoints, les membres de ce Quatuor Hagen, par leur collaborateur régulier qui est le pianiste Kirill Gerstein.
Thank you.
C'était le troisième mouvement, le scherzo du quintet avec piano en fa mineur opus 34 de Johannes Brahms, interprété par le Quatuor Hagen et Kirill Gerstein.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Comment reproduire le bruit de la pluie avec un sac plastique? C'est ce que nous allons notamment découvrir dans ce reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Direction Marseille pour rencontrer les voix de la Canebière, des ateliers de chant choral animés par des artistes de la cité phocéenne. Pendant un dimanche, des chanteurs amateurs vont tester des techniques de chant et pénétrer dans l'univers d'un artiste. C'est la seconde édition de ce programme porté par le collectif Prodige Art. Marie, vous avez assisté au cours d'un artiste titilleur des mots et chasseur d'instruments de musique.
Donnez-lui une boîte de cachou, Saskia, il y verra un écrin à percussion.
Je m'appelle André Menviel et je suis vocal chimiste, c'est-à-dire que je cherche dans le langage mon chant à travers les lettres, à travers les mots, à travers les sons, à travers les rythmes.
C'est vous qui avez inventé ce terme?
Ouais, c'est moi qui l'ai inventé parce que je voulais m'écarter du terme vocaliste. Parce que vocaliste, souvent, c'est des gens qui sont cultivés du point de vue de l'écriture. Et vocal chimie, c'est expérimental et populaire et ça a à voir beaucoup avec l'oralité, en fait.
Onomatopée,
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 oh,
oh,
j'tou,
j'tou.
Vous l'avez deviné et entendu pendant cette introduction, c'est ce qu'il y a, cette introduction à la vocale chimie, les participants vont se servir de leur corps pour reproduire des rythmes. Ils vont beaucoup répéter après le poète André Menviel qui, lui, sur scène, les accompagne avec parfois des instruments très ordinaires.
Ça, c'est la guimbarde. Ensuite, vous avez du sifflet de nez de la forêt équatoriale du Brésil. Alors, on souffle avec le nez et on fait ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est un sac plastique. Et si on le malaxe bien, on peut faire la pluie, par exemple.
Ça marche bien, il est doué, il est doué. Alors pour certains élèves, c'est la première fois qu'ils intègrent une chorale. Il va pourtant falloir assurer, car juste après cette journée d'apprentissage, ils sont attendus sur scène pour faire le show.
Le soir même, sur la scène de la Cité de la Musique de Marseille, comme Lola. Vous aviez déjà fait de la chorale?
Non, pas du tout. C'est la première fois que je participe à un atelier de chant.
Et alors, comment ça se passe?
Bah super, d'autant plus que c'est Menviel, du coup, c'est super intéressant. Il y a tout ce qui est onomatopée, c'est de la technique, mais en même temps, on fait autre chose, c'est plus du ressenti.
J'ai senti un léger trac, mais l'effet de groupe rassure, c'est ce que nous confie Maxime Wagner, l'ancien chanteur professionnel qui coordonne ce projet.
Chanter seul, c'est pas forcément facile. Chanter dans un groupe, eh ben, y a une énergie, on ose finalement le faire. On se surprend à faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. On prend confiance et on vit une aventure collective et artistique qui à chaque fois réjouit les participants.
Au programme du concert, un poème du peintre Jean Dubuffet et une chanson de Jacques Prévert, ponctuée par des exercices de souffle et de cris très maîtrisés.
Les voix de la Canebière, ces ateliers de chant choral ouverts à tous, le prochain aura lieu, notez-le à votre agenda si vous souhaitez y participer, le dimanche 15 mars, et il portera sur les musiques de tradition judéo-arabe. Merci beaucoup Marie-Jiquel.
Merci Saskia.
Et à très bientôt. La mezzo Stéphanie Doustrac, accompagnée au piano par Tanguy de Villancourt. Plaisir d'amour de Martini, extrait de ce nouveau disque paru chez Harmonia Mundi.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue pour votre chronique hebdomadaire. Alors aujourd'hui, avez-vous des recettes pour composer une belle fugue vocale?
Moi non, mais Glenn Gould en a. Mais avant, je vais quand même vous dire quelques mots sur la fugue. La fugue, c'est à la fois une forme absolument géniale, mais c'est aussi une technique. C'est une technique un peu comme Achille et la tortue, c'est un thème qui se développe, qui se suit, qui se poursuit et qui finalement arrive en apothéose à sa conclusion. Alors Gould a lui-même pour la télévision canadienne fait des émissions formidables où ce grand pianiste ne fait pas seulement jouer des fugues, mais il explique par une composition qu'il a faite lui-même, So You Want to Write a Fugue, alors vous voulez écrire une fugue, il a fait des paroles et une musique pour expliquer ce qu'est la fugue.
You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue. So go ahead.
So you want to write a fugue. You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue. So go ahead. So go ahead and write a fugue. So go ahead and write a fugue that we can.
So you want to write a fugue.
Trouve-t-on des fugues dans tous les styles musicaux ?
Pas dans tous, mais dans beaucoup. Et même la comédie musicale s'en est emparée, notamment dans Guys and Dolls, ce chef-d'œuvre de la comédie musicale des années 50, avec cette fugue très particulière, la fugue for Tin Horns de Guys and Dolls, donc.
I got the horse right here, the name is Paul Revere, and here's the guy that says if the weather's clear, can do, can do. This guy says the horse can do, if he says the horse can do, can do, can do.
I'm thinking Valentine, cause on the morning line, the guy has got him figured at five.
Existe-t-il une méthode de type la fugue pour les nuls?
Oui, d'une certaine façon, mais vous voyez, quand on écoute ces deux fugues, on entend les entrées de chaque voix comme ça qui se superposent, et c'est de la polyphonie gourmande. Alors, cette polyphonie gourmande, elle a été codifiée dans les traités, notamment le Gradus et Parnassum de Fuchs, 1725, traité sur lequel Haydn et Mozart ont travaillé. On connaît d'ailleurs la version annotée par Mozart lui-même de ce traité. Sinon, au XIXe siècle, il y a eu le traité de contrepoint et de fugue de Cherubini, le traité de fugue de Gédalge, qui sont des ouvrages très théoriques, parfaitement austères, mais en tout cas très savants. Mais, comme dit Gould dans sa fugue, il faut tout simplement ignorer les règles et essayer d'écrire une fugue, Saskia, pendant vos vacances, ça va être formidable.
C'est le projet.
Et le plaisir vous viendra. Un autre qui a eu beaucoup de plaisir et qui est un modèle pour tous, c'est évidemment Bach, avec ses multiples fugues vocales, instrumentales, et notamment, parmi ses chefs-d'œuvre, dans la messe en si, Et in terra pax, par Raphaël Pichon.
Écoutez ça toute la journée, je pense. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour ce beau début de journée entre vous, en votre compagnie. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Allez, je vous souhaite déjà bonne année,
merci.
Marc-Olivier.
Merci à vous, Saskia.
Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Thank you.
réjouissance, un extrait de cette ouverture pour orchestre numéro 4, ouverture qui est une suite de danse donc de Jean-Sébastien Bach, interprété ici par cet extraordinaire ensemble, le Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Pascal Gaillard.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes présidente de l'association Musée en Musique, association qui organise la saison musicale de l'auditorium du Musée de Grenoble. Alors une trentaine de concerts par an, cette année évidemment en partenariat avec France Musique. On a le grand plaisir de vous recevoir ce matin pour en parler. C'est courant ça, un musée qui a sa propre programmation musicale, Pascal Gaillard ?
Écoutez, à part Paris, où bien entendu il y a un certain nombre de programmations dans les grands musées parisiens, en région, il y en a très peu, je ne crois pas en connaître d'autres où il y ait une vraie programmation qui se déploie toute la saison. Il y a certainement, bien sûr, des concerts occasionnels dans des musées, évidemment, mais une programmation comme celle-là, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, non.
Comment est née l'idée ?
L'idée est née lorsque le musée de Grenoble a été construit tout simplement en 1994. Il a été inauguré en 1994 donc. Et à cette occasion, la collectivité de Grenoble a souhaité élargir l'offre de ce musée, qui par ailleurs a une magnifique collection qui couvre toutes les périodes. C'est un très grand musée français. Et donc l'idée était d'élargir cette offre à d'autres publics et de permettre donc à des publics peut-être moins musées d'aller dans ce lieu magnifique que nous avons à Grenoble maintenant depuis toutes ces années. Et donc, on m'a sollicité pour déployer cette programmation au rythme d'environ 3 concerts par mois. Et c'est ce que nous faisons depuis.
Uniquement de la musique classique, ça c'était un choix aussi du départ, Pascal Gaillard ?
Alors écoutez, en fait, c'est le lieu déjà. L'auditorium est une salle qui fait 200-300 places environ, qui possède une petite scène et donc qui est réservée aux petites formes de musique. Alors, classique, oui, dans un premier temps, puisque cette programmation est née d'une autre association qui s'appelait L'Oreille en Fête et qui était une association qui était partenaire et qui était associée à une école de musique originale, puisqu'il s'agissait d'apprendre aux enfants à jouer des instruments avant d'apprendre le solfège. Et donc, ça s'appelait l'association Vivaldi. Et donc, on déployait beaucoup l'oreille pour permettre aux enfants de jouer des instruments tels que le violon, le violoncelle, l'alto et la contrebasse. Et donc, Musée en Musique est né de cette association L'Oreille en Fête. Et donc, principalement autour de la musique classique. Mais il nous arrive régulièrement d'aborder d'autres répertoires dès que nous le pouvons.
Alors, on va citer tout de même des grands noms, en tout cas, qui sont passés par l'association Musée en Musique, par ces concerts organisés donc à l'auditorium du musée de Grenoble. Je pense à l'extraordinaire violoniste Victoria Mouleva, Maria Joao Pires, qu'on va écouter dans un instant, Anne Kefele, qui a aussi de jeunes artistes qui font depuis lors des grandes carrières. Pascal Gaillard, y a-t-il un lien peut-être systématique avec les expositions en cours au musée de Grenoble ?
Alors nous le faisons systématiquement, j'allais dire, en fonction des expositions d'automne et de printemps. Et là, nous organisons ce que nous appelons une journée au musée. Nous choisissons un répertoire fonction du goût spécifique des artistes qui sont exposés, par exemple, ou alors de la période d'exposition. Et nous souhaitons à cette occasion-là proposer dans cette journée au musée un premier concert à 11h, ensuite une présentation illustrée de l'exposition en début d'après-midi et un deuxième concert à 17h30. C'est toujours le même processus, j'allais dire. Et puis, pour l'exposition de printemps, nous proposons également ce que nous appelons des brèves musicales qui, elles, proposent des moments musicaux au cœur de l'exposition.
Alors, dans les concerts à venir, je note évidemment ces concerts de début janvier et février. Le 9 janvier, Goran Filipec, le pianiste, qui viendra donner un concert à 12h30 autour de l'environnement culturel de la Croatie qui prend la présidence tournante de l'Union européenne. Le 6 février, il y aura de la musique argentine, du tango notamment avec Piazzolla, avec l'ensemble Liber Quartet. Et le 17 février, Francesca Dego et Francesca Leonardi, deux femmes pour un répertoire constitué d'œuvres de Stravinsky et de Robert Schumann notamment. Mais revenons-en à Maria Joao Pires que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous allons écouter un extrait de la 5e sonate pour violon et piano de Beethoven.
Thank you. Thank you.
Le deuxième mouvement, ou du moins un extrait de cette cinquième sonate Le Printemps de Beethoven, interprétée en duo par Augustin Dumay et Maria João Pires. Maria João Pires, qui a été l'une des artistes présentes, à l'auditorium du musée de Grenoble dans le cadre de cette saison musicale organisée par l'association Musée en Musique depuis de longues années déjà. Pascal Gaillard est notre invité ce matin. Pascal, cette sonate sera d'ailleurs jouée dans les murs de l'auditorium prochainement.
Absolument, à l'occasion donc de la Folle Nuit que nous allons organiser en partenariat avec la Folle Journée de Nantes et René Martin, que vous connaissez certainement, et qui est associé à cette manifestation que nous organisons tous les ans au cœur de la saison, en janvier ou en février d'ailleurs, et qui nous permet d'aborder des programmes de la même façon qu'à Nantes, c'est-à-dire avec une série de concerts courts qui se succèdent toute une journée ou plusieurs jours, puisqu'à Nantes il s'agit de plusieurs jours. Et c'est une occasion pour notre public d'assister à des concerts courts et puis de découvrir une ambiance tout à fait particulière que nous apprécions particulièrement dans le musée de Grenoble, de redécouvrir ce lieu autrement, puisque nous sommes à la fois à l'auditorium et à la fois dans les salles, et en particulier dans la grande galerie et le patio du musée.
Et ça, on va en parler évidemment. Un festival au sein d'une saison musicale, donc ce sera les 17 et 18 janvier prochains. Alors, sur la même idée que la Folle Nuit, Pascal Gaillard, il y a un thème chaque année, hein.
Voilà. En effet, nous choisissons donc le thème, et cette année, il s'agit d'une folle nuit à Vienne qui nous permettra d'aller à la rencontre de compositeurs qui ont fait leur nid dans ce lieu absolument magique qu'est Vienne. Et donc, bien sûr, nous ne manquerons pas d'évoquer Beethoven, Schubert, Haydn, également Liszt, etc. Et puis, nous aborderons d'autres répertoires dans la galerie, puisque nous proposons ce que nous appelons des interludes musicales, qui se déploient donc dans la galerie et dans le patio, et qui là se font en partenariat, en collaboration avec le Conservatoire de Grenoble, ce qui donne l'opportunité aux grands élèves du Conservatoire de se produire devant un public, et ça aussi compte beaucoup pour nous, dans la mesure où nous souhaitons leur mettre le pied à l'étrier, et ils sont confrontés et associés à des artistes internationaux de renommée internationale et éprouvés, bien entendu.
Et je pense à Raphaël Pidou, le violoncelliste, voilà. Ou encore le quatuor Girard, le trio Helios ou le pianiste Selim Mazari. Un petit mot tout de même sur ce bal de clôture. Je rappelle donc la Folle Nuit à Vienne, à l'auditorium, au musée plutôt de Grenoble. Ce sera les 17 et 18 janvier prochains. Un bal de clôture aura lieu le 18 janvier à 22h15 dans la galerie du musée. À quoi ça va ressembler, Pascal Gaillard?
Eh bien écoutez, au bal qu'on peut rencontrer à Vienne, en tous les cas, c'est ce que nous allons essayer de faire, un petit peu plus modestement peut-être, mais en tous les cas, l'idée est bien de faire danser le public, et on leur apprendra la valse pour leur permettre de danser, et je pense que ce sera un moment tout à fait sympathique, faut le dire comme ça. Et puis, un moment rare, et c'est ce que nous essayons, c'est de surprendre notre public et de les amener à trouver le plaisir à travers tout ce qu'on peut proposer avec la musique, ce que nous essayons de faire depuis de nombreuses années. Bon, pour ce bal, nous aurons l'Orchestre Symphonique des Bains, qui sera dirigé par Christine Antoine. Voilà.
L'association Musée en Musique qui organise donc la saison musicale de l'auditorium du musée de Grenoble. Cette folle nuit à Vienne, donc, festival au sein de cette saison musicale, ce sera les 17 et 18 janvier. Il y a d'autres activités organisées par l'association. Pascal Gaillard, je pense notamment à ces retransmissions en direct du Metropolitan Opera de New York que vous organisez hors les murs, on va dire. C'est au cinéma Pathé Chavant de Grenoble. Il y a aussi un lien avec la bibliothèque de Grenoble qui propose chaque mois des livres, des disques, des DVD, des partitions en lien avec la programmation que vous proposez. Une seule adresse, un site internet pour acquérir vos places, musée-en-musique.com. Chers auditeurs, vous trouverez bien évidemment toutes ces informations sur la page de Musique Matin sur le site de francemusique.fr. Cher Pascal Gaillard, nous étions ravis de vous avoir avec nous ce matin pour parler de cette association Musée en Musique. On vous souhaite une très belle année quand même déjà, évidemment, un petit peu en avance, et puis à très bientôt, puisque cette saison musicale se fait en partenariat avec France Musique. Merci Pascal Gaillard.
Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à évoquer ce travail que nous faisons depuis de nombreuses années et nous sommes très flattés de parler sur France Musique.
Eh ben c'est un grand plaisir, sachez-le. À très bientôt. La sonate pour clavier en mi majeur, Kirkpatrick 531 de Domenico Scarlatti, interprétée par Vladimir Horowitz. Sonate qui sera jouée par une jeune musicienne, Natalia Milstein, qu'on connaît déjà bien sur France Musique. Ce sera le 29 mars dans le cadre de la saison musicale de l'auditorium du musée de Grenoble.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour chère Saskia.
Roselyne, à propos de notre soirée opéra, vous avez décidé de nous parler cinéma. C'est quand même un peu paradoxal.
Pas vraiment Saskia, puisque ce soir nous allons retrouver Les Noces de Figaro, un des trois opéras bâtis par Mozart sur un livret de Lorenzo da Ponte et créé le 1er mai 1788 au Burgtheater de Vienne, 2 ans et demi avant sa mort. Je ne vous ferai pas l'injure de vous raconter l'argument, tant l'œuvre inspirée par la comédie éponyme de Beaumarchais est célébrissime, ni d'en détailler la partition qui regorge des tubes les plus connus de la musique classique. Sachez simplement que vous écouterez un casting superlatif avec le Cercle de l'Harmonie sous la baguette de Jérémy Rohrer, qui emporte Stéphane Degout en Alma Viva, Robert Glidov en Figaro, Anna Aglatova en Suzanne, Éléonore Pancrazi en Chérubin et la délicieuse Vanina Santoni en Comtesse. Tout cela enregistré dans la salle mythique du Théâtre des Champs-Élysées. Mais si je vous parle cinéma, c'est que cette production a vu l'arrivée dans la mise en scène d'opéra du très célèbre cinéaste James Gray. Depuis Little Odessa, film très noir sur un tueur sinistre, ou The Yards, de la même inspiration, ou encore La Nuit nous appartient, Gray s'est fait une spécialité des films se déroulant dans une ambiance sépulcrale, et je dois dire que j'imaginais mal comment cet homme d'une tristesse slave congénitale, hérité de grands-parents ukrainiens émigrés aux États-Unis pour échapper au pogrom, je me demande comment il allait rendre la divine légèreté mozartienne. Qu'il ait le goût de la musique lyrique, je n'en doutais pas. Et petite anecdote, je me souvenais qu'à la projection de son film « Si immigrante » au Festival de Cannes, j'avais remarqué qu'il avait choisi le fameux air haletant de la course de Sigmund dans la Valkyrie pour accompagner une des dernières séquences du film. La festivalière assise à côté de moi m'avait dit « Vraiment, Christopher Spellman est un compositeur de génie ». Mais ce n'était pas la première fois que Gray illustrait ainsi ses œuvres. Pirgun pour Little Odessa et pour The Yards, Norma et Attila. Michel Franck, le patron du Théâtre des Champs-Élysées, a mis du temps à convaincre Gray de faire cette mise en scène. Son épouse, l'épouse de Gray, est venue à la rescousse et la distribution absolument ébouriffante a finalement emporté la décision. Il faut dire aussi que le mariage porte comme une tunique de Nessus la patte insurpassable de la mise en scène de Giorgio Strehler, qui depuis 1973 occupe l'esprit de tous les lyricophiles. James Gray, tout en rendant hommage à Strehler, n'a pas mis ses pas dans les siens, ceci d'autant plus facilement que le monde des noces n'est finalement pas aussi éloigné que cela de l'imaginaire de James Gray. Sous la légèreté de la commedia dell'arte, tout un bouillonnement de haine, de jalousie, de désir, de passion, d'enjeux de pouvoir se déchaîne avec d'autant plus de violence qu'il se dissimule sous les convenances et les conventions. La lutte des classes y est féroce et la cruauté toujours présente. James Gray n'a pas voulu faire une bluette hollywoodienne, d'autant qu'il professe des engagements politiques clairs et exigeants et combat Donald Trump résolument, le traitant sans embâge, d'imbécile dangereux. Oui, James Gray a su saisir le paradoxe mozartien avec une rigueur et un classicisme qui laissent toute sa place à ce qui compte par-dessus tout, la musique. Alors pour l'illustrer, le fameux air de Figaro, c'est Vuol ballare, signor Contino. C'est là que, évidemment, Figaro s'oppose au comte Almaviva, son aristocrate et son maître dépravé.
Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. À la semaine prochaine.
Au revoir Saskia, et non seulement à l'année prochaine, mais à la semaine prochaine.
Voilà qui termine donc cette émission. Un petit mot sur notre concours avant de se quitter. Je vous offrais ce matin le livre « Opéra de Paris, toute une histoire » de Jérémy Rousseau et de Gérard Denisot, paru aux éditions Larousse. Il fallait pour cela deviner le nom du deuxième site où sont proposées les productions de l'Opéra de Paris. Il s'agissait bien évidemment de l'Opéra Garnier. Les gagnants seront recontactés très prochainement par email. Merci à Pablo Valero et Julien Doumain qui étaient avec moi en studio aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une merveilleuse nouvelle année, un petit peu en amont. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Georges Gershwin, Leonard Bernstein, mais aussi Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber. La comédie musicale prend ses quartiers chaque dimanche sur la 42e rue. Une heure pour plonger dans son histoire, ses musiques, rencontrer ses artistes, découvrir ceux qui la fabriquent, avec aussi chaque mois un concert en direct. La 42e rue, proposée par Laurent Vallière, est ouverte chaque dimanche à 13h sur France Musique et quand vous voulez en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.